Bien-aimés frères et sœurs de la radio Parole Éternelle, Shalom, c'est notre émission, votre émission Congo Écoute. Au micro, c'est votre serviteur, le pasteur Marcelo Jérémy Tounassi, de l'église Compassion, située à Limété, 2e rue, quartier industriel numéro 6. Nous sommes dans notre série sur comment vaincre la tentation. Nous avons parlé déjà de 20 principes sur comment vaincre la tentation. Et aujourd'hui, nous allons ajouter encore 10 principes, ça nous fera 30 principes et nous avons 40 principes à ce sujet. Donc nous aurons 4 émissions sur ce thème, comment vaincre la tentation. Nous allons lire la parole de Dieu, nous sommes dans Juges 16, verset 13. Jusqu'en bas, Juges 16, 13 jusqu'en bas. Délila a dit à Samson, « Jusqu'à présent, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges, déclare-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. » Et elle les fixa par la cheville, puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, « Comment peux-tu dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi. » Et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. C'est là vraiment le passage important. Son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête. » Parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout homme. Délie la voyant, qui lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Quelle histoire dramatique. Que cela ne t'arrive jamais, bien-aimé. Que l'histoire de Samson ne soit qu'une histoire que tu lis dans la Bible, mais que jamais elle ne devienne ta vie. Voici le premier principe. Il ne faut pas te lasser de dire non. Il ne faut jamais te lasser de dire non. Pourquoi est-ce que Samson a chuté? Il était fatigué de dire non. Délila est venu, revenu, révèle-moi le secret de ta force, révèle-moi le secret de ta force. Elle a tellement insisté qu'il était fatigué à mort. Il lui a ouvert le cœur. Il a dit oui une fois, mais il a perdu sa chevelure. Oui une fois, il a perdu ses yeux. Oui une fois, il est devenu l'esclave de ses ennemis. Oui une fois, lui qui était le dominateur est devenu le dominé. Oui une fois, et il a regretté. Oui une fois, et il a fini par perdre sa vie, car même quand la chevelure avait repoussé, eh ben, il a eu une victoire et puis il est mort dans cette victoire. Il s'était fatigué de dire non. Si tu veux vaincre la tentation, ne te fatigue pas de dire non. S'il faut dire non à chaque minute, chaque seconde, chaque jour, chaque mois, chaque année, il faut dire non. Jésus ne s'est pas fatigué de dire non à Satan. Il est venu avec une tentation physique, il a dit non. Il est venu avec une tentation intellectuelle, il a dit non. Il est venu avec une tentation spirituelle, adore-moi, il a dit non. Ceux qui vivent dans la sainteté sont des hommes qui ne se lassent point de dire non. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes finissent par succomber parce qu'ils se disent, j'ai quand même résisté depuis janvier, je vais tomber quand même en décembre. J'ai trop résisté à ce garçon, quand même je vais lui faire plaisir cette fois. J'ai tellement dit non à mes chefs. Aujourd'hui, comme je vais accepter aussi d'entrer dans la corruption, j'ai trop résisté dans mon ministère. Quand même aujourd'hui, je ferai comme les autres. Bien-aimé, le jour que tu diras oui, c'est le jour où les princes de Philistins viendront te crever les yeux, viendront te couper la chevelure. Ne te lasse point de dire non. Deuxième chose. Il faut savoir que le diable est un pêcheur qui va à la pêche avec des filets troués et que toute attaque du diable a un point faible et une porte de sortie, car il a des stratégies imparfaites. Je répète, il faut savoir que le diable est un pêcheur qui va à la pêche avec des filets troués et que toute attaque du diable a un point faible et une porte de sortie, car ses stratégies sont toujours imparfaites. Bien-aimés frères, sœurs, lorsque l'ennemi t'attaque, il lance un filet sur toi. Sache que c'est un filet troué. Il y a toujours un trou et tu peux en sortir. Chaque fois que tu ressens le filet du diable autour de ta vie pour t'amener dans le péché, t'amener dans le mal, sois toujours conscient de ceci. Il n'a que des filets troués. Il n'y a point de stratégie imparable du diable. Le diable n'a pas de stratégie parfaite qu'on ne peut défaire. Toutes ces stratégies ont des points faibles. Et chaque fois que tu es tenté, obsédé par le mal, par le péché, bien-aimé, garde ton sang-froid et ton calme. Vérifie bien son filet. Il y a un trou et tu peux sortir. Bien-aimé, un pêcheur peut lancer un filet et il prend plein de poissons. Mais si ces filets avaient un trou, il y aura toujours des poissons qui se dégageront parce qu'ils vont comprendre qu'il y a un trou et ils vont se jeter encore dans l'eau. Pareil aussi, bien-aimé, sache que chaque fois que l'ennemi vient dans ta vie et qu'il lance un filet, même si tu sens que ce filet est sur toi, vérifie, il y a un trou. Il est possible de dire non. Il est possible de s'en sortir. Il est possible de s'en sortir car le diable n'est pas un parfait stratège. S'il était un parfait stratège, il n'allait pas permettre que Jésus-Christ meure à la croix. S'il était un parfait stratège, il n'allait pas faire qu'on crucifie Jésus. Il est allé la faire qu'on crucifie Jésus. Mais Christ, mourant, ressuscitant, nous a sauvés. Parce que le diable n'est pas un parfait stratège. Lorsque, bien-aimé, le diable vient vers toi, ne crains pas, il n'est pas un parfait stratège. Il y a plus intelligent que lui, plus fort que lui, le Saint-Esprit de Dieu qui habite en toi et qui est capable de déjouer toutes ses stratégies. Troisièmement, il faut réfléchir sur l'après et sur les conséquences de la séduction et de la chute. Bien-aimé, lorsque Samson a révélé sa force, il n'avait pas réfléchi sur les conséquences de sa décision de révéler le secret de sa force. Il a cru que Delilah allait se contenter seulement de savoir que si on coupe ses cheveux, il sera comme un autre homme. Il ne pouvait pas s'imaginer que cette femme avait la mission de couper ses cheveux et de faire de lui un homme faible. Bien-aimé, chaque fois que l'ennemi te tente, chaque fois que l'ennemi te séduit, pose-toi la question, qu'est-ce que j'aurai après cela? Après cela, qu'est-ce que j'aurai? Je veux perdre ma joie. Je veux perdre mon onction. Je veux perdre ma communion avec Dieu. Je veux perdre ma crédibilité. Je veux perdre mon ministère. Je veux perdre mon foyer. Je veux perdre mon travail. Je veux perdre mes amis. Je veux faire honte à ma famille. Je veux faire honte à l'église. Je veux faire honte à Dieu. Je veux faire honte au royaume de Dieu. Réfléchis, bien-aimé. Ce sont les insensés qui agissent sans réfléchir. Ce sont les insensés qui traversent la route sans regarder à gauche et à droite, pensant qu'aucune voiture ne passera là. Et voilà qu'il y a un accident et il meurt. Il faut toujours réfléchir. La réflexion permet d'évaluer les conséquences de ses actes et de dire dans cette balance, je trouve que je suis perdant. Qu'est-ce que Samson avait gagné en révélant le secret de sa force à Delilah? Plus d'amour, plus de joie, plus de bonheur. Il a tout perdu, il ne voyait plus, de sorte qu'il avait besoin d'un petit garçon pour l'aider à tenir les deux colonnes du temple. Bien-aimés frères, sœurs, lorsque l'ennemi te tente, réfléchis sur les conséquences. Lorsque l'ennemi a tenté Caïn plutôt de tuer Abel, Caïn ne savait pas qu'il allait être un maudit et qu'il serait chassé loin de tous et que quiconque le verrait cherchera à le tuer. Frères et sœurs, si Judas pouvait savoir qu'en succombant à la tentation, la cupidité, il allait finir pendu, qu'il allait se suicider. Il n'allait pas le faire, bien-aimé. Si David savait qu'en tombant avec Bathsheba, il allait créer des problèmes dans sa propre famille, des incestes, des meurtres, et que même Absalom allait se révolter contre lui. Si David savait que ce petit plaisir avec Bathsheba allait amener un jour dans les années qui viennent un schisme en Israël, car après Salomon, après David est venu Salomon, mais le fils de Salomon a perdu 11 royaumes. Pourquoi? Tout cela avait commencé avec David qui un jour a tué le mari d'autrui. Pourquoi? Parce qu'il aimait sa femme. Et la Bible a dit, Dieu lui a maudit, il a dit que l'épée ne quittera plus ta maison. Lui qui était un psalmiste a commencé à pleurer dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas réfléchi. Tu veux pécher? Prends le temps de réfléchir. Tu veux succomber? Prends le temps de réfléchir. Tu veux faire comme tout le monde? Prends le temps de réfléchir. Il n'y a jamais un sans deux. Il n'y a jamais deux sans trois. Et ceux qui aujourd'hui sont esclaves du péché ont commencé avec un tout petit pas. C'était une petite curiosité. Ils voulaient faire comme tout le monde. Ils voulaient essayer, voir comment ça donne. Et ils sont devenus esclaves de la drogue, esclaves du sexe, esclaves du diable. Ils sont devenus des satanistes, des occultistes. Oh, bien-aimé, toi contente, on te dit d'entrer dans l'occultisme, tu vas y laisser ta famille et tes enfants, tu vas y laisser toute ta famille, et tu commences petit à petit en disant, mais quand même, je deviendrai plus fort, je vais dominer, mais réfléchis sur les conséquences. Lorsque le diable a proposé à Jésus-Christ de l'adorer, Jésus lui a dit, tu n'adoreras que l'Éternel ton Dieu, car si Jésus-Christ adorait le diable, il serait sataniste, parce que celui qui adore le diable est sataniste. Vous imaginez les conséquences de cela? Bien-aimés frères et sœurs, si tu veux vaincre la tentation, dis toujours après cela, qu'est-ce que j'aurai? Et du coup, le désir de péché te quittera. Quatrième chose, il faut avoir la vision d'un jour à la fois, car à chaque jour suffit sa peine, à chaque jour sa consécration, à chaque jour sa sanctification. On porte sa croix chaque jour et non chaque mois ou chaque année. Il faut renouveler tous les jours ton engagement de suivre Dieu, un jour à la fois. Ne vis pas ta vie chrétienne une année à la fois, deux ans, chaque jour, aujourd'hui. Si je disais à un homme qui est lié au tabagisme, ça fait 10 ans, d'arrêter de prendre la cigarette, de fumer pendant 10 ans, il dira c'est impossible. Mais si je lui dis aujourd'hui seulement, ne fume pas, il va dire c'est facile, je peux le faire. Va vers la fourmi et tu vas te rendre compte que les fourmis ont appris à disséquer et à diluer leurs défis. Lorsqu'ils veulent transporter un pain, ils divise en milliers de morceaux et chaque morceau est transporté par une fourmi et après vous remarquez que le pain a disparu. Pourquoi? Parce qu'ils ont dilué le défi, bien-aimé. Ton défi dans la sainteté n'est pas un défi annuel, c'est un défi journalier. Ton défi dans la sanctification n'est pas un défi hebdomadaire, c'est un défi journalier. Dieu te demande de le craindre, pas demain, aujourd'hui. Pourquoi? Tu n'as qu'aujourd'hui, demain ne t'appartient pas. Qui te dit que tu vivras demain? Qui te dit que demain tu vas te réveiller? Se réveiller est une grâce, est une faveur de Dieu. Donc aujourd'hui seulement, vis dans la sainteté. Aujourd'hui seulement, vis dans la pureté. Il est facile de vivre dans la sainteté lorsqu'on vit un jour à la fois. Un jour à la fois. Mais lorsque tu additionnes 365 jours de sainteté, ça te fait une année de sainteté. Lorsque tu additionnes 365 jours de sainteté, ça te fait une année de sainteté. Et lorsque tu additionnes 24 heures de sainteté, ça te fait tout un jour de sainteté. Bien-aimé, Dieu te demande seulement aujourd'hui de ne pas être impudique, aujourd'hui de ne pas être ivrogne, aujourd'hui de ne pas tromper ton mari, aujourd'hui de ne pas être homosexuel, aujourd'hui seulement. Et c'est facile, bien-aimé. Oui, il faudrait aussi que tu entendes ce message, qu'il est facile de vivre dans la sainteté, que la vie chrétienne est facile, car trop de temps, on nous dit que c'est difficile de vivre dans la sainteté. C'est difficile, bien-aimé. Non, lorsque tu as reçu la nouvelle nature, tu es comme un poisson dans l'eau. Est-ce que le poisson souffre dans l'eau? C'est son domaine, c'est sa nature. Il est fait pour cela. Il est compatible à l'eau. Il a été créé pour être dans l'eau. Et l'homme nouveau, créé en Jésus-Christ, a été fait pour la sainteté. Et il ne se sanctifie pas par trop d'efforts. C'est naturel pour lui que de vivre dans la sainteté. Bien-aimé, un jour à la fois. à chaque jour sa consécration et tu fais le bilan de ta journée. Et le matin, tu renouvelles encore ton engagement de suivre Dieu et tu fais le bilan de cette journée et tu vas te retrouver dans une vie de pureté, une vie de sainteté. Tu as vécu dans la drogue pendant des années. Je te dis aujourd'hui seulement, arrête de te droguer. Et demain, tu renouvelles cet engagement de ne plus te droguer. Et après demain, et tu feras une année sans drogue, 2 ans, 3 ans, 10 ans, et tu seras libéré pour toute ta vie, un jour à la fois. Une autre chose, il faut t'aider à ne pas être tenté. Il faut t'aider toi-même à ne pas être tenté. Comment? En mettant autour de toi une discipline qui fait que tu puisses te retrouver dans un milieu de sainteté et de consécration. En étant avec ta femme régulièrement, en travaillant, car quand on ne travaille pas, bien-aimé, on ouvre la porte à l'ennemi. Beaucoup de péchés sont commis lorsqu'on est dans l'oisiveté. Un homme qui travaille est concentré sur son travail et n'a pas trop de temps pour faire le mal. En travaillant et aussi en te faisant contrôler. Dans certaines entreprises, on met même des caméras partout. Ça aide leurs travailleurs à ne pas voler, à ne pas chipper. C'est aussi une bonne chose. Il faut t'aider toi-même à ne pas être tenté en créant un milieu autour de toi qui t'aide à demeurer dans la sainteté. Et l'une des choses, c'est le travail. La Bible nous dit que beaucoup de femmes sont tombées dans des médisances et des commérages à cause de l'oisiveté. Les hommes et les femmes qui ne font rien font n'importe quoi parce qu'ils ont tellement d'énergie non utilisée qu'ils ne savent pas le canaliser et ils canalisent cette énergie dans le mal et dans le péché. Bien aimé, il faut t'occuper. La Bible dit que celui qui ne travaille pas vit dans le désordre. Oui, parce que l'oisiveté et la négligence, la paresse amènent le péché. Lorsque David ne faisait rien à la maison, c'est quand il a pu remarquer Bathsheba. Mais lorsqu'il était dans ses guerres, il n'a pas eu le temps de remarquer Bathsheba. Bathsheba existait depuis toujours. Mais comme il ne faisait rien, c'est alors qu'il s'est concentré sur la femme d'autrui et qu'il est tombé. Crée-toi un environnement où tu es occupé à des choses utiles, des choses positives, et cela va t'aider à vivre dans la sainteté. Il faudrait que tu aies un agenda où tu programmes des choses positives, des choses bonnes. Il faudrait que tu aies un calendrier où tu dis « je vais faire ceci de janvier en décembre ». Il faudrait avoir un agenda où tu dis « je vais faire ceci du matin jusqu'au soir ». Mais lorsque tu ne programmes rien, tu ne programmes pas la sainteté, tu ne programmes pas un travail ou une occupation qui va te permettre d'être concentré, c'est alors que dans la distraction, la divagation des pensées, le péché viendra. Sixièmement, il faut prendre au sérieux les avertissements de Dieu par les songes, les visions, les prédications, les conseils et les prophéties. Il faut prendre au sérieux les avertissements de Dieu par les songes, les visions, les prédications, les conseils et les prophéties. La Bible nous dit que lorsque Dieu a parlé à Joseph au travers des anges, lui disant « Ne rentre pas sur le chemin, parce que l'enfant voudrait être tué par Hérode. » Joseph a obéi. Lorsque les mages ont reçu une vision par un ange de ne pas rentrer par le chemin vers Hérode, ils ont obéi. Lorsque Joseph, Dieu lui a dit d'amener l'enfant en Égypte, en songe, il a obéi. Lorsque Joseph, Dieu lui a dit de ne pas répudier Marie, en songe, il a obéi. Joseph était un homme spirituel qui prenait au sérieux les songes. Il prenait au sérieux les songes. Il pouvait quitter Israël pour l'Égypte seulement parce qu'il a eu un songe. Seulement parce qu'il a eu un songe. Et bien aimé, des fois Dieu peut te prévenir d'une grande tentation, d'une grande chute au travers d'un songe. Tu as un songe où tu vois telle personne te tenter et Dieu te dit fais attention. Tu peux avoir une prophétie. En général, tu viens à l'église et une prophétie sort. Attention mon fils, prends cela au sérieux. Un prédicateur peut venir, il prêche et il prêche toute ta vie sans te connaître. Fais attention, faisons attention, car nous, Dieu ne peut jamais laisser son enfant tomber sans le prévenir. Dieu te préviendra toujours. Chaque fois qu'il y a des scandales, c'est parce que tu ne t'es pas laissé prévenir par Dieu. Dieu parle toujours, Dieu parle toujours. S'il ne te parle pas par une prophétie, par une vision, Il peut te parler même par le battement de ton cœur. Quand ton cœur commence à battre la chamade, tu peux sentir que tu es en danger et que tu commences à faire quelque chose que Dieu n'aime pas. La conscience nous parle. Un homme qui est sensible à sa conscience vaincra le mal et le péché. La Bible nous dit que lorsque David a seulement coupé le pan de la robe de Saül, son cœur a commencé à battre et il s'est arrêté là parce qu'il pouvait être sensible, il pouvait écouter, la manière dont Dieu avait décidé de lui parler et lui c'était sa conscience. Toi peut-être c'est une prédication, c'est un son, c'est une vision, bien aimé un conseil, quelqu'un peut te conseiller, te dire attention, ne fréquente pas telle personne, ne fréquente pas tel milieu, ils vont te perdre, il faut apprendre à écouter. Septièmement, il faut observer la vie de ceux qui ont succombé à la tentation et les peines qu'ils ont connues. Si tu veux vivre dans la sainteté, observe les autres qui sont tombés dans la tentation. C'est pourquoi la Bible n'est pas faite que des victoires de ses serviteurs, mais aussi des défaillances de ses serviteurs. La Bible nous parle de la chute de David, de la chute de Salomon, de la chute de Samson, de la chute d'Adam, de la chute d'Ève, de la chute de Judas, le fils de Jacob, de la chute de Judas, le disciple de Jésus, de la chute de Caïn, pour nous dire, faites attention, la Bible ne nous présente pas que des hommes forts, nous présente des hommes forts et des hommes faibles, pour que nous puissions dire, je ne ferai pas comme Salomon, je ne ferai pas comme David, je ne ferai pas comme Samson, je ne ferai pas comme Amnon, je ne ferai pas comme Adam, comme Ève, comme Judas, mais je ferai comme Jésus-Christ. Bien-aimés frères, sœurs, regarde autour de toi ton frère qui a refusé d'écouter la parole de Dieu et qui a succombé à la tentation, aujourd'hui se retrouve en prison. Regarde ta sœur qui a refusé d'obéir à la parole de Dieu, qui a succombé à la tentation, aujourd'hui elle est fille mère. Regarde ce père qui s'est livré au mensonge, aujourd'hui se retrouve en prison et ses enfants sont seuls. Regarde ton ami d'enfance qui s'est livré au péché et aujourd'hui il a attrapé la maladie du sida, il est sidéen. Regarde autour de toi, celui-ci qui avait un puissant ministère, mais qui l'a perdu parce qu'il n'a pas vaincu la tentation. Tu n'as qu'à regarder autour de toi pour avoir la force de dire non et dire, je ne ferai pas comme Samson, je ne ferai pas comme Ève, je ne ferai pas comme Adam, je ne ferai pas comme eux parce qu'ils n'ont rien eu, ils n'ont rien reçu et moi je ne recevrai rien. Bien-aimé, ne détrompe pas, tu n'es pas différent des autres. Si le péché a détruit les autres, il te détruira toi aussi. Ne pense pas que tu es le chouchou de Dieu. Ne pense pas que tu es le préféré de Dieu et que tu peux te permettre de pécher et que rien ne va t'arriver. Si tu veux vaincre le mal, observe autour de toi ceux qui sont tombés et les conséquences qui leur sont arrivées et tu auras la haine et l'horreur du péché. 28. Il faut aussi observer la vie de ceux qui ont surmonté la tentation. Et croire que c'est possible, parce que la Bible ne nous parle pas seulement de ceux qui sont tombés, mais nous parle aussi de ceux qui sont restés purs jusqu'à la fin. La Bible nous parle d'un homme comme Samuel. La Bible dit qu'aucune de ses paroles ne tombait à terre. Il a terminé son ministère dans la gloire. Il est vrai que ses enfants n'ont pas suivi ses traces, mais Samuel a eu un ministère irréprochable. S'il y a une erreur que Samuel a failli commettre, c'est que il a failli oindre les grands frères de David à sa place parce qu'il a regardé son apparence. Mais en dehors de cela, jamais il n'a pris les bœufs de personne. Jamais il n'a pris la femme d'autrui jusqu'à la fin de son ministère. Cet homme, il y avait tellement d'onction dans sa vie que lorsque Saül, le roi, est allé consulter les mauvais esprits, il est venu et il a donné une prophétie sortant de la mort. Et cette prophétie s'est accomplie. Saül et son fils Jonathan sont morts. Cet homme a craint Dieu jusqu'à la fin. Et j'aime bien parler du pasteur Jacques Verneau. Chaque fois dans le ministère, et que je vois comment est-ce que cet homme a servi Dieu jusqu'à la fin de sa vie. On n'a pas entendu qu'il a volé. On n'a pas entendu qu'il est tombé dans l'adultère, qu'il s'est enflé, qu'il y a eu un culte de personnalité autour de lui. Je suis encouragé de vivre dans la sainteté lorsque j'observe le ministère du pasteur Jacques André Verneau, qui jusqu'au bout a prêché la sainteté, la repentance et a
vécu le message qu'il a lui-même prêché aux autres. Bien-aimé, ne regarde pas seulement ce qui tombe, mais regarde aussi ce qui reste debout, afin d'être encouragé. Ceux qui tombent me font peur et je dis, je ne ferai pas comme eux. Et mais ceux qui sont debout m'encouragent et me disent, je peux faire comme eux, car ce sont des hommes de la même nature que moi. S'ils peuvent rester debout, je pourrai rester debout. S'ils peuvent vaincre la tentation, je pourrai vaincre la tentation. Et comme Jésus-Christ, qui est la tête de l'Église, a vaincu la tentation dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit, nous qui sommes l'Église, son corps et son épouse, nous pouvons aussi vaincre la tentation, car tel il est, tel nous sommes aussi sur cette terre. Il faut observer la vie de ceux qui ont surmonté la tentation et croire que c'est possible, à l'exemple de Job, qui malgré tous les malheurs qui lui sont arrivés, a refusé de maudire Dieu. À l'exemple de Pierre, qui après s'être repenti, lorsqu'on est venu l'arrêter et lui dire de ne plus prêcher l'évangile, il a dit, dites-nous à qui devons-nous obéir, à Dieu ou aux hommes. Cet homme qui acceptait de mourir crucifié, la tête en bas et le pied en haut. Pierre, lorsque je vois Joseph qui a dit non à la femme de Potiphar, malgré sa richesse et sa beauté, je suis encouragé à vaincre la tentation. Lorsque je vois Jésus-Christ de Nazareth qui a vécu sans péché, je suis encouragé de vivre dans la sainteté et je crois que je peux vaincre. Quand je vois Paul qui a eu un parcours plus, parce que la perfection n'existe pas, presque parfait, je suis encouragé et je peux dire que dans le ministère, je ne commettrai pas de bêtises, car ceux qui m'ont précédé, les Paul, les Pierre ont vaincu. Moi aussi, je mourrai dans la sainteté, dans la pureté. Bien-aimé, lorsque tu es tenté, regarde autour de toi ceux qui tiennent debout, pas seulement ceux qui sont tombés. Neuvième chose, il faut rester sur tes gardes et prendre garde après avoir vaincu. Car la Bible nous dit, dans Matthieu 4, après que Jésus-Christ ait chassé le diable, il s'en est allé, attendant une occasion favorable. Noé a vaincu en construisant l'arche, mais quand il est sorti de l'arche, il a perdu sa concentration. Il a planté du vin, une vigne, il a bu le vin, il s'est enivré, et il a maudit son fils Cham, et il a maudit Canaan. Bien-aimé, lorsque David était concentré à sa guerre, tout allait bien. Mais lorsqu'il a seulement perdu la concentration, il est tombé avec Bathsheba. Il faut rester sur tes gardes, parce que le diable rôde. Il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Il faut rester sur tes gardes, car tu ne connais pas les jours de la grande tentation. Il faut être vigilant sur toute ta discipline. Il faut être prudent comme un serpent. Il faut être conscient que l'ennemi rôde comme un lion. Il faut être aux aguets. Il faut rester concentré. Ne perds pas ta concentration. Lorsque tu vis dans la sainteté, lorsque tu as triomphé devant une tentation, une obsession, ne perds pas ta concentration. Reste sur tes gardes. Jésus-Christ n'est pas encore revenu. Tu n'es pas encore mort. Le combat continue. Garde ta garde très haute, comme on dit aux boxeurs. Lève ta garde, parce que le round n'est pas fini. Tu risques d'avoir un chaos. Bien-aimé, reste concentré. La dernière chose, il faut savoir se détendre sainement. Pourquoi? Parce que après la concentration, il y a la détente. Et c'est souvent après la concentration que les gens tombent. Nous voyons Dieu après la création qui se repose. Mais il faut se reposer en Christ, de peur de tomber dans le piège de Noé. Il faut pratiquer le sport, il faut visiter des bons amis, il faut regarder des bons documentaires, des films qui t'édifient, écouter de la bonne musique, chanter, danser pour la gloire de Dieu, faire de l'art, lire des bons livres, aller même en vacances, parce que, bien aimé, des fois, la fatigue est un ennemi de la sanctification. Il faut se reposer suffisamment, car une grande fatigue diminue la résistance à la tentation et même la sensibilité au Saint-Esprit. Jésus se reposait, il dormait dans une barque. Dieu se reposa après avoir créé le ciel et la terre et le monde, après avoir créé l'homme et la femme. Bien-aimé, il faut avoir une vie équilibrée. Il faut avoir une vie où tu te reposes. Beaucoup de gens tombe après une grande retraite. Il vient de se sanctifier dans la retraite, mais après la retraite, il pêche. Pourquoi? Il ne sait pas se détendre sainement. chrétien, faire le sport n'est pas un péché. Regarder les documentaires n'est pas un péché. Avoir aussi, pratiquer, l'art n'est pas mauvais. Faire de l'art n'est pas mauvais. Jouer la guitare, écouter la musique. Tu peux te détendre, visiter des amis, faire du tourisme, aller en vacances, te reposer, te détendre sainement. Car lorsqu'il y a trop de fatigue, on perd la sensibilité. Et quand on perd la sensibilité, on perd la discipline. Bien-aimé, il faut programmer ton repos. Celui qui programme son repos se reposera en Christ. Mais celui qui ne programme pas son repos va se reposer dans la chair. C'est pourquoi, après des sommets, beaucoup de gens retombent très bas. Après des hauts niveaux de sainteté, ils retombent très bas. Lorsqu'ils veulent se détendre, ils veulent un peu souffler. Et c'est quand ils veulent souffler qu'ils tombent. Bien-aimés frères et sœurs, tu es debout. Fais attention de tomber quand tu voudras te reposer un peu. C'est pourquoi, toi qui as une vie de prière, toi qui as une vie de sainteté, de consécration, lorsque tu te détends, détends-toi en Christ, car ce sera le moment où le diable voudra te tenter. Jésus, le Seigneur, prêchait la parole puissamment, mais des fois il dormait dans la barque, il se détendait en dormant. Ne te détends pas en prenant du vin, ne te détends pas en regardant des films démoniaques, ne te détends pas en allant dans des endroits qui ne glorifient pas Dieu. Détendez-vous en Christ et vous vaincrez la tentation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voici les sujet dont nous avons parlé, les 10 principes. Il ne faut pas se lasser de dire non à l'exemple de Jésus et de Joseph pour ne pas être comme Samson à qui cela coûta la vie. Deuxième principe, il faut savoir que le diable est un pêcheur qui va à la pêche avec des filets troués et que toute attaque du diable a un point faible et une porte de sortie car il a des stratégies imparfaites. Trois, il faut réfléchir sur l'après et sur les conséquences de la séduction et de la chute. 4. Il faut avoir la vision d'un jour à la fois, car à chaque jour suffit sa peine, à chaque jour sa consécration, à chaque jour sa sanctification. On porte sa croix chaque jour et non chaque mois ou chaque année. 5. Il faut t'aider à ne pas être tenté. Il faut mettre autour de toi des mécanismes qui te gardent dans la sainteté. 6. Il faut prendre au sérieux les avertissements de Dieu par les songes, les visions, les prédications, les conseils et les prophéties, comme Joseph et les mages. 7. Il faut observer la vie de ceux qui ont succombé à la tentation et les peines qu'ils ont subies à cause de cela et avoir peur. 8. Il faut observer la vie de ceux qui ont surmonté la tentation et croire que c'est possible, car ce sont des hommes de la même nature que toi. 9. Il faut rester sur tes gardes et prendre très au sérieux les petites tentations, car des fois c'est une petite peau de banane qui peut faire tomber le plus grand des hommes forts. 10. Il faut se détendre sainement pour diminuer la pression, et cela en Christ, en pratiquant du sport, en visitant tes amis, en regardant des films édifiants, en écoutant de la bonne musique, en chantant, dansant pour la gloire de Dieu, en lisant un bon livre, en allant en vacances. Car, bien-aimé, quand tu ne te reposes pas suffisamment, une grande fatigue peut diminuer ta résistance à la tentation et ta sensibilité au Saint-Esprit. Jésus se reposait, il dormait dans la barque, et Dieu même, après avoir créé toutes choses, se reposait le septième jour. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre émission Congo Écoute. Je prie que Dieu te donne la victoire sur la tentation, sur l'obsession, que ce qui hier t'a dominé ne te domine pas et que ce qui frappe à la porte de ton cœur pour entrer dans ta vie n'entre pas, que tu reçoives par le Saint-Esprit la force de dire non. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Bye bye, que Dieu vous bénisse. Amen.
Ok. Une certaine période, j'avais